grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
Chen Nibiru.
Halud Mounde
Chen Nibiru Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes mercredi 10 décembre 2014. Le Grand Dialogue réfléchit aujourd'hui sur un double événement, la libération du dernier otage français au Sahel contre celle de terroristes au Mali. Avec nos invités, nous allons parler des otages, de cet otage qui vient d'être libéré et des djihadistes également qui ont été libérés comme monnaie d'échange. Alors, nos invités, Mamadou Diouara, analyste politique, sociologue, Ousmane Cornio qui sera au téléphone, il est expert des questions sécuritaires, et enfin Amadou Bokar Tekete, secrétaire général de l'association malienne des droits de l'homme. Je suis Famoussa Sidibé et Sedoumbo est à la technique.
Studio Tamani.
Si la libération de Serge Lazarevitch, le dernier Français otage dans le monde, a été accueillie ce 9 décembre avec soulagement, au Mali, les conditions par contre de cette libération sont assez troubles. Hier, beaucoup de défenseurs des droits de l'homme ont regretté qu'elle ait été conditionnée par celle de terroristes liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Toujours au Mali, les associations de défense des droits de l'homme s'indignent également contre la libération de ces djihadistes comme monnaie d'échange. Alors, la première partie de ce débat, les pressions pour la libération de Serge Lazarevitch, la famille et les médias, et tout comme l'otage lui-même, Serge Lazarevitch, dans un enregistrement vidéo, a appelé le président français à l'aide. Cette libération est-elle un coup politique ou une réelle volonté des politiques ? Monsieur Diouara.
Bonsoir et merci d'abord de m'avoir invité à venir à ce débat. D'abord, nous devons saluer la joie, exprimer vraiment notre joie à constater que Serge Lazarevitch a fini par retrouver la liberté. Et je suis plus à l'aise en le disant parce que même si je n'ai pas été enlevé par des terroristes, j'ai connu une période j'ai été arrêté par les putschistes. Et je sais ce que ça représente que d'être libéré, alors qu'on ne s'y attend pas forcément. Donc c'est une très bonne chose pour lui. Vraiment, nous exprimons notre joie. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, Serge Lazarevitch est libéré suite à multiples pressions. Il a lui-même, dans un enregistrement, demandé au président Hollande de lui venir en aide. Mais cet appel de Serge Lazarevitch était aussi un appel de ses ravisseurs. Et quand on analyse la situation, ça veut dire que ces ravisseurs, qui nous le savons, d'ailleurs l'ancien chef de la DGSE française a dit que ce groupe qui détenait Serge Lazarevitch est différent par exemple de l'État islamique. Ce groupe est un groupe purement organisé dans le crime organisé et dans l'enlèvement. Et pour eux, les otages constituent une monnaie d'échange, une source de financement. Ils peuvent les garder pendant plusieurs années pour monter les enchères. Et le fait de l'amener à envoyer un message à Hollande, c'était un message qu'eux envoyaient à Hollande. Et ça signifie que c'est une période où ils avaient besoin d'argent. Et quand un terroriste a besoin d'argent, c'est qu'il prépare quelque chose.
Alors, nous allons savoir s'il prépare quelque chose. Ousmane Cornio, vous êtes expert des questions de sécurité. Vous intervenez par téléphone. Est-ce que vous êtes du même avis que M. Diouara?
Oui, je viens d'écouter mon prédécesseur. Je suis peut-être content pour M. Lazarevitch qui va être libéré. Mais vraiment désolé pour M. Karimanien. Parce que celui qui a été libéré en contrepartie de sa libération, en plus d'être un acteur du crime organisé, avoir enlevé la service à Ombori, a dans sa tentative de fuite tué un soldat malien, un citoyen malien. Maintenant, est-ce que on craignait pour la mort de Lazarevitch, on cherche à le libérer. Est-ce que la vie de ce Français vaut mieux que la vie du Malien qui a été tué. Donc je crois qu'il y a un problème de justice et un problème de politique.
Nous allons en débattre dans la deuxième partie, Ousmane Kornio. Tout d'abord, les pressions pour la libération de Serge Lazarevitch.
Oui, ces pressions, comme on le sent, les pressions politiques, comme je le dis, sont les pressions politiques. On a besoin vraiment aujourd'hui d'avoir la France de notre côté, dans notre dialogue, dans les pourparlers qui sont en lieu à Alger, dans la mesure où, sans la France avec nous, je ne suis pas sûr que même avec la signature de l'accord, qu'on puisse mettre en œuvre les accords qui seraient signés. Donc, je crois que pour contenter, ce n'est pas un problème seulement d'argent, c'est vraiment pour avoir la France de notre côté. Et je crois que le principal auteur, ce n'est pas le Niger, mais c'est le côté malien qui cherche à contenter la France.
Merci beaucoup, Ousmane Kornio. Nous allons revenir vers vous tout au long de ce débat. Alors, nous avons également Amadou Bokar Tekete, secrétaire général de l'Association malienne des droits de l'homme. Monsieur Tekete, pensez-vous que cette libération puisse être un coup politique ou bien une réelle volonté de libération?
Merci de m'avoir donné l'occasion de dire encore ce que je pense. Et de féliciter Dayo Tamani, qui a toujours donné l'occasion de dire exactement ce qu'on pense. Pour cette libération, je pense que c'est la promotion de l'impunité. Quelle que soit la cause, on ne peut pas justifier cette libération par autre chose que la promotion de l'impunité qui a été encouragée, qui a été organisé et entretenu par l'État malien.
Alors, la deuxième question que j'aimerais bien vous poser, Monsieur Tekete, vous êtes le représentant de l'AMDH, l'Association malienne des droits de l'homme. La mort du compagnon de Serge Lazarevitch, Gilberto Rodriguez Leal, a fait l'objet de plusieurs commentaires, notamment du fait qu'il ait pu se passer une scène d'énervement ou tout autre motif ayant pu causer sa mort pour se retrouver dans les environs de Ombori, une zone assez isolée du Mali. On s'interroge peut-être pas assez sur le titre et ou la profession réelle de certains otages comme ces deux derniers, Serge Lazarevitch et Gilberto Rodriguez Leal. Que sait-on réellement sur ces deux personnes? Le savez-vous?
Et nous allons prendre tout le temps à ne rien savoir, puisque la volonté politique de vouloir savoir n'existe pas. Et nous avons l'habitude de parler avec un mensonge extraordinaire pour pouvoir tromper le peuple, d'ailleurs que nous méprisons. L'État malien, les responsables maliens n'ont aucune considération pour le peuple malien. Donc cette enquête dont vous faites allusion a été dite ouverte. Mais est-ce qu'on peut dire effectivement que l'enquête est ouverte? Non. On l'a dit. C'est-à-dire, défenseur des droits de l'homme que je suis, je ne peux affirmer que lorsque je peux toucher la chute du doigt, si je n'ai pas de preuves, je considère que ça a été dit et ça n'en engage que ceux qui l'ont dit. Et ça me pousse, moi, à ne pas faire confiance tant que je n'ai pas la preuve de ce qu'ils ont dit.
Alors, je me tourne vers Ousmane Kornio. Ousmane Kornio, je reviens toujours sur cette question sur la profession ou le titre réel de ces deux personnes qui se trouvaient à un moment où on disait que la zone était une zone dangereuse ou classée zone orange ou bien rouge dans le Nord. Pensez-vous aujourd'hui qu'on ait plus d'éléments concernant le titre de ces deux personnes?
Bon, il est vrai quand même qu'il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport au titre de ces deux personnes. Mais moi, ce qui m'importe beaucoup plus, c'est la nationalité de ces deux personnes. Ces deux personnes sont quand même des Français. Et je crois que si le gouvernement français s'est mobilisé pour la libération de ce otage, c'est parce que c'est un citoyen français. Et pour eux, la vie d'un citoyen français compte. Peut-être que chez nous, ça compte moins. Et c'est ce que je retiens.
Diouara.
Voilà, je voudrais quand même réagir à ça. Quoique ce soit salutaire que l'État se préoccupe de la vie d'un citoyen, moi je ne suis pas d'accord avec cette politique. Et je ne peux pas comprendre qu'un État décide de donner des raisons valables à des terroristes de s'en prendre à chacun de ses citoyens à travers le monde. Parce que si la France montre aujourd'hui aux terroristes que quand vous avez un de nos citoyens, vous avez un moyen de pression sur nous qui peut nous amener à mettre la pression sur les autres pays sur lesquels nous avons le dessus. Ça veut dire que chaque citoyen français qui se balade dans le monde est dangereux, est en danger. Ça veut dire que le français devient à partir de ce moment une ressource financière. Il devient un instrument qui permet aux organisations de se faire financer. Et il faut le déplorer, c'est une politique qui est dangereuse pour le citoyen français. Ce n'est pas une protection des Français, non, c'est une mise en danger des Français et par ricochet, une fragilisation des États africains dont on se sert pour prendre ces Français.
Ousmane Cornio, vous êtes d'avis ?
Bon, moi, je ne suis pas tellement d'avis. Moi, je ne pense pas que, parce qu'en fait, quand il dit, c'est peut-être qu'il croit qu'il pense à la rançon. Bon, c'est vrai que des rumeurs, mais moi, je ne pense pas à la rançon. Ce qui m'écœure dans cette situation, ce n'est pas de payer la rançon. La rançon que la France a pu payer ou a dû payer, c'est son engagement pour libérer son citoyen. Moi, ce qui m'importe, c'est que voilà un pays qui est prêt à tout pour libérer son citoyen ou pour lequel la vie de son citoyen compte.
Moi, je dirais plutôt que c'est un pays qui est prêt à renoncer à ses principes pour satisfaire un besoin politique particulier. Parce que Sarkozy, excusez-moi, pas Sarkozy, Hollande, qui est dans une difficulté politique, a besoin...
Nous allons laisser le soin à Ousmane Cornio d'aller au fond de ses idées.
Ok.
Voilà. Je ne sais pas, je dis que je préfère, sont des rumeurs. Quand on dit qu'ils ont payé une rançon, ce sont des rumeurs. Nous n'avons aucune preuve. Moi, la seule preuve que nous avons, c'est que de notre côté, nous avons libéré des meurtriers, des assassins qui ont été emprisonnés et des gens qui, pour lesquels, devant la loi et le droit, sont tenus coupables et responsables, et qu'on les libère en contrepartie pour sauver la vie d'un Français.
Et justement, cette libération, nous allons amplement en débattre dans la deuxième partie. Nous allons tout juste observer quelques secondes de pause. Ensuite, je vous donne la parole, M. Tekete. Juste après la pause.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Oui, notre page Facebook ou également sur Twitter ou tout simplement visiter notre site web Studio Tamani en un seul mot .org. Alors nous sommes donc à la deuxième partie donc du débat, le grand dialogue aujourd'hui qui réfléchit sur cette libération de Serge Lazarevitch contre des terroristes. Alors nous allons donc débattre de tout cela avec nos trois invités, Mamadou Diouara, analyste politique, sociologue, et Ousmane Cornio, expert des questions de sécurité, et également avec nous, Amadou Bokar Tekete, secrétaire général de l'Association malienne des droits de l'homme. Alors nous parlions tout à l'heure des pressions concernant ces otages, et M. Tekete voulait ajouter quelque chose avant que nous ne passions à la deuxième partie.
Non, je voulais surtout appuyer Diouara, parce que Cornio n'est pas d'accord. Mais je crois que, à l'analyse de la déclaration du président de la République française, ça appuie effectivement ce qu'a dit Diouara. Parce que qu'est-ce qu'il les a dit ? Je demande aux Français de faire attention et ne plus partir comme ils veulent partir, parce que c'est mauvais. Et dans son mandat, il dit qu'il avait dit qu'il fera tout pour qu'il n'y ait plus d'otages français dans le monde et qu'il est parvenu. Donc, ça veut dire effectivement que Diouara a parfaitement raison. Si on fait une analyse politique, si on fait une analyse objective, c'est que Hollande a pour but, justement, de pouvoir faire en sorte que les Français ne soient pas des monnaies et qu'on puisse ne plus toucher à un Français pour le pousser lui à faire. Mais maintenant, moi, le problème que je pose à l'intention de Cornio, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la France va garder la même attitude avant la libération qu'aujourd'hui ? C'est la question qu'il faut
nous
poser.
Nous fermons donc cette parenthèse sur la première partie. Nous ouvrons le volet de la deuxième partie, les conditions de cette libération, les monnaies d'échange. Alors il y a un élément essentiel, Wassouden, après s'être évadé de la prison centrale de Bamako le 16 juin 2014, Mohamed Ali Ag Wadoussen a été arrêté à Bamako le 24 juin 2014, fortement soupçonné d'être impliqué dans le rapt des Français Serge Lazarevitch et Philippe Verdon en novembre 2011. 2011 à Ombouri, dans la région de Gao, les forces spéciales des services de renseignement du Mali ont arrêté Mohamed Ali Agouassouden dans la nuit du 23 au 24 juin 2014. Son évasion et son arrestation ont occasionné la mort d'un gardien et la compagne du fugitif. Retour sur les faits avec cet extrait de Modibo Nama Traoré des services de sécurité maliennes lors de du grand dialogue que nous avons organisé lors de l'arrestation de Mohamed Ali Agouassouden en juin dernier.
C'est un long processus qui a abouti à son arrestation depuis les événements du 16 juin, l'évasion des prisonniers à la maison d'arrêt de Bamako. Ouassouden est un élément qui avait été arrêté à Gao par les éléments de la sécurité d'État et qui les avait gardés en leur sein. Ça s'est fait le 24 novembre 2011, avant d'engager la procédure judiciaire et le remettre au niveau de la justice, puisque c'est un terroriste. Et nous avons une cellule antiterroriste au niveau du service. Et cette cellule-là a continué à le suivre. Et ils se sont rendus compte que constamment, c'est une dame, et il s'est avéré que c'est sa fiancée, qui l'entretenait. Et finalement, quand il a reçu une grosse somme, notamment 15 millions, de la part d'un de ses oncles, qui est un lieutenant de Yadagali, ça lui a permis de faire beaucoup de choses dans la prison. Il a pris contact avec un certain Soumaïla Dambélé Dissoumi, condamné à mort. Ils ont préparé cette sortie de prison. Et quand il s'est évadé, il s'est trouvé que la dame-là était là devant la prison le même jour. Comment il est sorti? Le premier garde qui est rentré, qui a suivi les plombiers, parce qu'ils ont essayé de simuler une panne de plomberie pour qu'on fasse appel aux plombiers. Le plombier est venu, il était suivi par un garde. Il y avait une sympathie tenace entre le garde et les prisonniers. Le garde a sorti son arme, il l'a déposé par terre et l'autre l'a pris son arme. C'est comme ça que ça s'est passé. Il a commencé à tirer, mais il n'a pas tué ce monsieur-là. Quand il est sorti, il y a malheureusement l'aide d'un chef, Soufara, qui, avec son fusil, qui même était enrayé, qui a voulu l'arrêter. Et il a tiré sur ce dernier. C'est celui-là qui en a fait les frais.
Alors ça, c'était le récit de l'arrestation de Mohamed Ali Agouassouden que nous, lors de notre grand dialogue spécial, lors de son arrestation. Aujourd'hui, Mohamed Ali Agouassouden a été libéré par les autorités maliennes. Que s'est-il passé entre-temps, Ousmane Cornu?
Ce qui s'est passé entre-temps, c'est qu'il y a eu d'autres raisons qui ont prévalu que la raison de la justice. C'était des raisons politiques. Rappelons que la politique a des raisons que la raison même ignore. Et la justice se repose sur la morale et sur la raison. Et ce sont ces éléments qui manquent en politique. Je crois que ce sont des raisons politiques qui ont prévalu. Et dans les relations d'amitié entre la France et le Mali, dans les sacrifices, la considération des sacrifices que la France a consenti pour la libération du Mali, je crois qu'il y a tous ces éléments qui sont rentrés en ordre de bataille et un ordre de considération. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, on courtise encore davantage la France pour pouvoir nous aider à libérer notre Nord qui est encore sous emprise des narcotrafiquants. Tous ces éléments rentrant en compte nous rend faibles et très faibles devant la France, à tel point qu'on a dû céder pour contenter François Hollande.
Mmh. Bon, voilà.
Ben, vous savez, moi je pense qu'à un moment donné, il faudrait que nous, intellectuels, ayons le courage de nos opinions. On ne peut pas accepter que Ouassouden soit libéré pour faciliter la libération de quiconque à travers le monde. Le citoyen français qui a été détenu, qui a été enlevé par les terroristes. Mais pourquoi la France, en tant qu'État, si elle a choisi de négocier avec les terroristes, ne déploierait pas les moyens et c'est le Mali qui devrait payer le prix? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas compréhensible, ce n'est même pas acceptable. Si le gouvernement malien a consenti à cela, moi je dis que c'est un crime. Et il faudrait que nous ayons le courage de le dire.
Qu'est-ce qui peut se passer?
Ce qui peut se passer, c'est d'abord un premier message qu'on a envoyé. C'est un premier message qu'on a envoyé, un, au gardien de prison. Parce qu'un gardien de prison est mort dans l'exercice de ses fonctions. Parce qu'il a voulu résister à l'évasion d'un terroriste. Il a perdu la vie. Aujourd'hui, celui qui l'a tué de sang-froid
a été libéré.
A été libéré. Sans, sans discussion, sans rien. Sans même avoir été jugé. Alors, en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres. Bon, nous n'avons pas tout le temps.
Je vais vous donner la parole tout à l'heure pour amplement répondre à cette. Réagir par rapport à cette question. Nous avons également le frère du gardien qui est décédé. Mais juste avant de passer ce témoignage, nous allons donner la parole à M. Tegueté de l'Association malienne des droits de l'homme pour réagir.
Merci encore Radio Tamani. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dépasse tout entendement. Celui qui a été libéré a été soupçonné déjà de terroriste. Et dans sa détention préventive, il passe à l'assassinat d'un gardien de prison. Il n'y a que le frère Sidi qui a saisi l'AMDH sur proposition du secrétaire général de l'AMDH, parce qu'il faut le préciser, et qui a saisi le secrétaire général de l'AMDH en réclamant ou bien en demandant l'ouverture d'une enquête qui n'a jamais été ouverte. Vous dites, qu'est-ce qui est choquant? Mais tout est choquant dans ce qui s'est passé. Un noble malien, fidèle aux idéaux d'un peuple, d'une république, a été assassiné dans l'exercice de ses fonctions. Les parents ont demandé que justice se fasse, qu'on fasse enquête pour savoir exactement de quoi il s'agit. Et puis le commissaire a donné une version que nous, on n'avait pas. Parce que nous avons appris que le détenu a reçu une arme à l'intérieur d'un téléviseur que sa compagne aurait dû lui donner. Donc, il s'est servi de cette arme-là. Donc, c'était prémédité déjà. Et la femme, vous dites qu'elle était devant la porte. OK. Mais quand on prenait le gars, il était avec la femme dans la maison. Et si vous prenez la distance entre la maison d'arrêt de Bamako et
le domicile l'immeuble
Badjelika, c'était un endroit où on ne peut pas dire qu'il peut passer inaperçu. Il vous a parlé de 15 millions qu'il a reçu d'un lieutenant de Yad. Mais Yad vient à Bamako.
Vous avez les preuves?
Mais je te dis, Yad vient à Bamako malgré le mandat d'arrêt international qui est sur Yad. Il a ses entrées ici. Il y a le pied-à-terre de Yad qui est à Falaguer.
Alors, bon, donc, nous allons proposer le témoignage du frère de la victime, du gardien.
C'est moi qui ai donné la parole hier. Hein?
Ok, nous allons vous proposer de l'écouter. Non, juste après, je vous donne la parole.
Non, je l'ai écouté.
Monsieur Tegueté,
j'allais couper mon allure parce que très sincèrement.
Allez-y.
Ce monsieur-là n'est pas n'importe qui qu'on doit libérer. C'est quelqu'un, moi je suis défenseur des droits humains, je suis contre la mort de la personne humaine. Mais quelqu'un qui a tué des gens dans ce sens-là, on doit tout faire pour qu'il soit jugé au moins.
Au moins.
Puisque vous dites qu'on allait en profondeur, parce qu'il y a la responsabilité fondamentale de l'État. Il faut qu'on le dise.
Alors nous allons vous proposer ce témoignage du frère aujourd'hui, Mohamed Ali Agoua Souden, a été libéré par les autorités maliennes. Que s'est-il passé entre-temps? Nous allons en débattre juste après ce témoignage du frère du gardien, de l'adjudant-chef Soufara de la prison centrale de Bamako, que Mohamed Ali Agoua Souden a tué lors de son évasion.
J'attends que justice soit rendue, que l'assassin soit encore poursuivi, rattrapé par l'histoire et condamné comme cela se doit. C'est à bout portant qu'il a agi et il a mis fin à la vie de mon frère. C'est une négligence dont l'État est coupable. C'est une insécurité dont l'État est coupable. L'État est responsable à part entière de la mort de mon frère dans l'exercice des fonctions à son jeune âge de 47 ans. Je veux une justice, une réparation pleine et entière. J'ai eu toute la conviction que l'âme d'un Européen est encore plus précieuse que l'âme d'un Malien. Parce que s'il faut échanger un assassin contre un Français retenu pendant 3 ans par AIDA, j'avoue qu'on a accordé une primauté à l'âme du Blanc au détriment de l'âme du Malien de l'Africain.
Alors, que faut-il attendre comme réparation de l'État, M. Tegueté, de l'AMDH?
Ce qu'il faut attendre d'abord, c'est l'honnêteté intellectuelle de l'État. Il ne faut pas mépriser les gens et puis en donnant des fausses informations. Parce que le ministre, en tout cas au département du ministère de la Justice,
ça nous a été rapporté par les journalistes qui sont venus à notre conférence de presse, qu'ils ont approché le département qui a dit que le gars n'est pas libéré. Ils ont démenti formellement sa libération. Et nous demander quelles sont vos sources d'information. Mais nous ne sommes pas aussi profanes, nous ne sommes pas aussi méconnaisseurs des choses pour qu'on leur donne quand même l'informateur, nos sources d'information. Parce que les défenseurs des droits humains ont des informateurs qu'il faut, garder et faire en sorte qu'on protège les informateurs.
Les sources.
Bon, maintenant, ce qu'on a posé comme question, le gars n'est pas libéré. Ok. Donnez-nous la possibilité de savoir qu'il n'est pas libéré en l'amenant à la télé, par exemple. Montrer à tout le monde qu'il n'est pas libéré. Mais finalement, la vérité a fini par triompher. Il est effectivement, il a été libéré. Et les deux autres sont déjà dans la région de Kidal, dans leur village.
Ousmane Cornéo, une réaction?
Oui, c'est ce que je crois que tout Malien réagirait de la même façon. Nous déplorons la mort de ce sergent. C'est la vie d'un citoyen malien. Mais ce qu'il faut toujours reconnaître, c'est que moi, je suis d'accord pour reconnaître, c'est la situation dans laquelle se trouve le Mali. C'est ça qu'il faut voir. Parce que quand un pays est en position de faiblesse et qu'il n'arrive pas, il faut accepter qu'on n'arrive pas à assurer l'intégrité territoriale de notre pays. Quand on est en position de faiblesse, tout est capable. Nous avons accepté par le passé signer des accords que nous savons que nous n'allons pas tenir. Nous avons, avant la libération de ces terroristes, libéré beaucoup d'autres terroristes qui ont été pris, qui ont été emprisonnés. Tout ça, c'est dans la recherche de la solution du Nord, qui est, vous faites, une raison d'État. J'ai l'impression que si je dois avoir la moindre tolérance pour la libération de ces jeunes, c'est vraiment des raisons d'État. Nous sommes aujourd'hui en position de faiblesse et tous les moyens sont aujourd'hui en train d'être cherchés et mis en œuvre pour avoir avec nous ceux qui pourront nous aider à libérer. Moi, c'est vraiment que ce seul pardon, et cette seule excuse, si on peut donner, qui peut justifier la libération. Mmh. Sinon, aucune autre raison ne peut justifier la libération d'un narcotrafiquant, d'un terroriste.
Mmh. Alors, juste avant de vous donner la parole, M. Tekete, le HCUA, à travers son secrétaire général Al-Gabas Aguintala, a déclaré avoir fourni de l'aide pour cette libération de Serge Lazarevitch. Ceci donne-t-il plus de crédibilité et de nécessité d'agir avec ces mouvements armés, Ousmane Cornéo?
Ben, non, je ne pense pas qu'ils aient contribué. Hein. Ils n'ont pas contribué. Je crois que l'affaire s'est passée avec le ministre de la comment s'appelle, le gouvernement nigérien, notre propre gouvernement, et peut-être des interlocuteurs que nous avons eus à mettre sur le terrain, et que la France aussi a pu contacter sur le terrain. On connaît les gens qui sont intervenus et qui sont intervenus dans cette négociation-là. Et ces gens-là, ce n'est pas leur première fois. Et ils ont aidé à libérer les quatre otages
d'Arlit.
Et c'est leur proportion. Bon, maintenant, est-ce que c'est à cause de l'argent que ces gens ont agi, ou bien c'est par des mesures fortes, parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui que ces groupes armés aussi courtisent la France, parce qu'il faut reconnaître que la position de Barkhane a changé par rapport au Nord.
Et j'ai l'impression suite à cette libération
que... Non, mais bien avant. Mmh. Bien avant, on a vu un certain nombre d'événements qui sont arrivés et d'actions que l'opération Barkhane a menées au Nord, et qui est rigoureuse, qui donne plus de rigueur à leur action, à leur position, et qui effraie tous ceux qui ont tendance à s'allier avec les narcotrafiquants.
D'accord. Nous allons observer quelques secondes de pause, Ousmane Cornéo. Nous allons poursuivre avec la troisième partie. Malheureusement, nous nous excusons, car le temps est assez court.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Vous êtes donc sur Studio Tamani. Nous sommes à la troisième partie du Grand Dialogue, le Grand Dialogue qui parle aujourd'hui de la libération de Serge Lazarevitch contre la libération de terroristes comme monnaie d'échange. Donc, pour débattre de cette question, nous avons comme invité Mamadou Diouara, analyste politique, sociologue, Ousmane Cornéo, expert des questions de sécurité, et le secrétaire général de l'Association malienne des droits de l'homme, Amadou Bokar Tekete. Alors, juste avant d'entamer cette troisième partie, partie. Nous allons permettre à M. Djouara de dire deux mots pour conclure cette deuxième partie que nous venons donc de fermer.
Merci beaucoup. Je voudrais rapidement dire à notre ami que effectivement, Al-Ghabas Agntallah et ses hommes ont contribué. Ce n'est pas leur première fois. Aujourd'hui, c'est Al-Ghabas qui parle. Hier, c'était Iyada Gali qui parlait quand c'était avec le réseau de ATT. Le circuit est là, c'est depuis longtemps que ce circuit est là. La France n'est pas ignorante de cela. La France était témoin quand le Premier ministre malien a été attaqué à Kidal par des terroristes. Les troupes qui sont venues combattre l'armée malienne étaient dirigées par le numéro 2 de Iyada Gali. Ce n'est pas un mystère, c'est devant l'armée française. Toutes les manœuvres qui ont eu lieu, c'est devant l'armée française. Quand l'armée tchadienne a voulu désarmer tous ceux qui étaient armés à Kidal, c'est la France qui les a empêchés de les désarmer. Pendant tout ce temps, qui a laissé le cadre pour que ces terroristes-là se constituent? C'est la France. C'est devant l'armée française qu'on est venu enlever les deux journalistes à la maison de comment il s'appelle?
Abéry
Agrissa. Donc moi je dis, il faudrait qu'on arrête de se voiler la face. La France a ses raisons de collaborer avec les terroristes. Moi, je ne suis pas suffisamment informé pour pouvoir dire quelles sont les raisons, mais elle a ses raisons qui la permet de collaborer avec les terroristes. Elle collabore avec ces terroristes-là.
Merci, Djouara.
Est-ce que vous
voulez Monsieur Tekete, deux mots pour finir cette deuxième partie.
Tout juste pour dire que nous sommes en position de faiblesse, ce qui doit nous permettre de perdre notre dignité, de perdre notre honneur, de perdre aussi notre... quand on me parle de la faiblesse, nous devons... Bon, je parle en défenseur des droits humains, je crois que vous allez me comprendre. Bon, je dis que la faiblesse aujourd'hui du Mali ne peut pas se justifier. Le seul pays qui a eu l'accompagnement de toute la communauté internationale dans cette crise, c'est bien le Mali. Si nous pensons que nous sommes en position de faiblesse, ça veut dire que nous ne savons même pas qui nous sommes. Nous sommes quand même une république. Nous avons notre drapeau. Nous avons notre territoire. Et vous pensez que c'est parce qu'on est faible qu'on doit accepter que des terroristes, des criminels soient libérés pour faire plaisir à quelqu'un, à qui que ce soit? Dans ce cas, je pose la question. La France...
Cette question est plus en termine.
Non, non. La France est-elle venue pour sauver les terroristes, où la France est venue pour combattre les terroristes?
La question reste posée. Nous allons donc entamer cette troisième partie qui parle de l'industrie des prises d'otages. Pourra-t-on un jour venir à bout des prises d'otages et les solutions qu'il faut aujourd'hui adopter? Ousmane Cornillo.
Oui, je crois que si peut-être on a la certitude que la France a contribué à libérer et cet otage en versant une rançon, je crois que ceci encourage, et ça je les rejoins, ça encourage et ça met d'ailleurs plus en insécurité les Français, parce qu'on se dirait que chaque fois qu'on attrape un Français, on essaie d'avoir de l'argent. Je n'ai pas les preuves, mais si on a la preuve vraiment qu'ils ont versé une rançon, ça alimente le circuit et ça donne d'ailleurs plus de zèle à ceux qui veulent le faire, dans la mesure où ça devient une activité purement commerciale. Donc ce n'est pas facile de lutter contre cette activité de crime organisé, de trafic de personnes, tant qu'ils sont sûrs d'avoir de l'argent. Et moi je suis d'accord, comme les Américains et les Britanniques. Un Américain, c'est un Américain, donc parmi des millions d'Américains. Un Britannique, c'est un Britannique parmi des milliers de Britanniques. Ils sont prêts à perdre une personne pour garder la dignité du pays. Si la France a choisi autrement, bon, c'est presque la politique. Mais je crois que ça encourage quand même les autres à le faire. Et dès qu'ils auraient arrêté et que les autres auront arrêté aussi, je suis sûr que ceux qui enlèvent les otages aussi vont arrêter d'enlever les otages.
Alors, on parle peut-être de cette affaire également, des deux journalistes de RFI qui ont été tués à Kidal, mais ces arrestations font également grincer les dents à RFI, puisque certains djihadistes libérés sont soupçonnés d'être en lien avec ces meurtriers-là de Ghislaine et de Claude. Alors, Quelle peut être la suite des enquêtes, Ousmane Cornio?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, que ça, c'est vraiment, c'est très compliqué. Si on accuse la France d'avoir mis tout en branle pour pouvoir libérer, Lazarevitch, il a été libéré et on a demandé en contrepartie, parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils ont versé des rançons, en contrepartie, la libération des terroristes que nous avions dans notre prison. Et si ces terroristes sont même impliqués dans la mort des deux journalistes, je crois que c'est la France qui devient embarrassée maintenant. Celui qui est embarrassé, c'est la France, parce que de l'autre côté, les auteurs de ces crimes, si ces auteurs sont ceux qu'on vient de libérer, alors que ceux qu'on vient de libérer, la France sait bien qui ils sont. Donc je crois que la France a fait un choix, et ce choix, et il va le gérer dans, avec sa population.
Mmh. Alors, merci.
C'est pour ça que je comprends.
Mmh. Merci beaucoup, Ousmane Cornio. Un mot peut-être, Amadou Bokar-Tekete de la MDH.
Je crois que la France n'est pas du tout gênée et ne sera jamais gênée, parce que la France a sa politique extérieure qui n'a rien à voir avec le Mali. Que ce soit la France, le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit l'Union soviétique, la France a sa politique extérieure.
Certes, mais c'est les citoyens français qui ont quand même été tués.
Oui. Mais j'ai dit que c'est une question de choix politique. Et il ne faut pas oublier que c'est des raisons politiques qui ont poussé tout ce qui s'est passé. Que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Au Niger, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi ? Parce que leur intérêt est déjà accepté. Et au Mali, il y a des choses qu'ils ont voulu qu'ils n'ont pas eu. Et aujourd'hui, moi, ce que je crains, c'est la participation même de l'Union européenne avec à sa tête l'ancien ambassadeur de France au Mali. C'est-à-dire que nous, dans la rue, ce que nous apprenons et ce que nous comprenons, il n'est pas facile qu'au niveau étatique, on ait la même vision. Et ça, ça peut se comprendre. Parce que l'État a une vision globale de la gestion, hein, de la politique intérieure et de la politique extérieure. Mmh. Mais nous, défenseurs des droits des humains, c'est la personne humaine qui est sacrée et qu'on ne doit pas toucher.
D'accord.
Voilà.
Alors, M. Djouara, vous voulez ajouter quelque chose à cette question?
Voilà, ce que je voudrais dire, d'abord, il faut saluer les efforts que l'État malien est en train de faire dans cette situation dite de faiblesse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est nous, les États africains, en tout cas principalement le Mali, qui récoltons les conséquences de cette politique étrangère française par rapport aux otages. Et je répète ce que j'ai dit en début d'émission, cette action consistant à faire libérer des prisonniers, si c'est fondé, parce que pour le moment nous n'avons pas la preuve du contraire, mais nous n'avons pas non plus la preuve tangible que le gars a été libéré. Mais si c'est confirmé qu'effectivement le gouvernement l'a libéré, et que la France a donné, la rançon, je dis, la France choisit une politique, mais il ne faudrait pas que dans cette politique, elle nous mette, nous, en insécurité. Wadou Sène est un terroriste qui a opéré sur le territoire malien et qui continuera d'opérer sur le territoire malien. Son groupe auquel il appartient vient d'être financé pour avoir plus de ressources, alors que ce groupe-là est sur le territoire malien. Et je vais donner une précision. Tous ces enlèvements dont on parle se sont passés au nord du Mali. Principalement, tout se tourne autour de la région de Kidal, même si les otages en question ont été enlevés à Hombori. Nous savons que c'est une première et une dernière épreuve. Jamais il n'y a eu d'enlèvement à Hombori. Ça n'a jamais eu lieu. C'est la première, c'est la dernière. Qu'est-ce qui se passe? Avant que vous me preniez la parole, je voudrais dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la région de Kidal est la chasse gardée d'un certain nombre de groupes. Il y a Dagali en tête, avec tous ceux qui sont terroristes reconvertis aujourd'hui en séparatistes, alors qu'au début de la crise...
À quoi faites-vous
allusion ? C'est à quoi je fais allusion, c'est que le ACUA n'est rien d'autre qu'en sardine. Tout le monde le sait, ce sont des terroristes. Ces terroristes ont été acceptés par la France sur la table de négociation parce qu'il y a des intérêts qu'on ne va jamais nous dire. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que quand le gouvernement prend le courage de décider de prendre certaines décisions, souvent le peuple ne suit pas. Mais il faudrait qu'on accompagne le gouvernement dans les efforts d'affranchissement.
Non, on
parle de cette libération. Je donne l'exemple. Quand le Premier ministre a pris le courage d'affronter ces gens à Kidal, et qu'il a poussé leurs alliés secrets à se dévoiler. On l'a accusé de tous les maux. Mais aujourd'hui, on voit que cette pression qu'on nous met nous fragilise. Si le peuple même se range de l'autre côté pour dire « Non, tu n'aurais pas dû faire ça, tu es parti accuser les gens, tu les as irrités, comment tu peux aller alors que tu sais que la situation... » J'ai dit « C'est un territoire malien, il fallait prouver que le gouvernement malien a la volonté d'affirmer sa souveraineté. »
C'est votre
Mais
analyse,
cette fragilisation, Dura, cette fragil... non, j'arrive. Cette
je,
fragilisation
je vais
politique...
parce que là, on non, est pratiquement à la fin de l'émission.
Cette fragilisation politique, j'ai fini là-dessus, cette fragilisation politique fait que le gouvernement n'a plus de force. Il est obligé, souvent... de baisser la garde.
D'accord. Alors, peut-on traquer les djihadistes et réduire leur capacité à l'heure actuelle, Ousmane Cornio, expert des questions sécuritaires? En deux mots.
Oui, moi je crois qu'on est à un stade aujourd'hui dans la négociation pour avoir notre nom à un stade où on est obligé de céder. Céder par rapport à ce qui n'est pas cédable. Et quand on dit que ils sont sur la table des négociations. Moi, je suis spécialiste en matière de gestion des conflits. Et la solution la plus durable, c'est la solution qui implique tous les acteurs. Et je dis tous les acteurs. Si vous laissez un acteur de côté, alors que tu nies à la solution que tu veux mettre en place, c'est que la solution ne sera pas durable. Donc moi, je crois qu'on doit prendre en charge les revendications, les actions de tous les acteurs pour qu'on puisse arriver à bout et prendre notre nord à, et restaurer l'intégrité territoriale. Parce qu'on ne l'a pas encore. Hein. On croit que le Mali est unitaire. Mais je viens du Nord. Je sais que la plus grande partie du Nord échappe au pouvoir central.
Merci beaucoup, Ousmane Cornio. Alors, juste deux mots, M. Tekete, pour conclure. Quelles sont les actions envisagées aujourd'hui que l'AMDH envisage de faire concernant cette libération?
L'AMDH ne peut envisager qu'il y ait une justice juste. Parce que tant qu'on n'a pas une justice juste, mais on va continuer avec le terrorisme qu'on va arrêter et libérer.
D'accord. Merci beaucoup, M. Tekete. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. Dans quelques secondes, il sera 19h en temps universel et c'est l'heure à laquelle s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle que le Grand Dialogue parlait aujourd'hui de la libération de cet otage, de ce dernier otage français dans le Nord contre celle de terroristes. Avec nos invités, nous avons parlé du dernier otage français libéré au Mali, tenté de comprendre et de faire le point des conditions de sa libération et de décrypter l'industrie des prises d'otages au Mali. Nos invités, Mamadou Djouara, analyste politique, sociologue, Ousmane Cornio, expert des questions de sécurité, et Amadou Bokar Tekete, secrétaire général de l'Association malienne des droits de l'homme. Alors, Ousmane Diadié Touré et son équipe ont réalisé cette émission. Je suis Famoussa Sidibé à la présentation et Monsieur Mbo était à la technique. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biro.
Halou Dmoundi.
Chenni Biri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Studio Tamani, merci d'avoir suivi nos programmes de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain sur...